Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Avant de vous présenter mon invité de la semaine, je souhaiterais mentionner deux événements qui auront lieu dans le courant du mois de septembre à Paris. Le premier se tiendra le jeudi 19 septembre et j'animerai une table ronde sur le thème des transitions, qu'elles soient écologiques ou énergétiques, en compagnie du fournisseur d'énergie renouvelable Équateur et d'autres invités. Il reste encore quelques places, n'hésitez pas à me contacter par email pour y participer. Le second aura lieu le mardi 24 septembre et cette fois nous nous retrouverons autour d'un petit déjeuner. Cet événement, je l'organise avec Chloé, hôte du podcast Nouveau Modèle. Nous vous réservons plein de surprises et avons très très hâte de vous rencontrer. Toutes les informations seront indiquées dans la description de l'épisode ou sur le site internet de Basilic. J'espère bien évidemment pouvoir organiser d'autres événements partout en France dans le courant de l'année prochaine. Cette semaine, je reçois Cécile Pasquinelli, fondatrice de la marque Garance, la première marque de lingerie française post-cancer du sein. Dans cet épisode, Cécile nous raconte son parcours et son combat contre cette maladie qui touche malheureusement bien trop de femmes en France et dans le monde. Elle nous explique pourquoi elle a eu envie et surtout besoin de créer une marque de lingerie et de maillots de bain adaptés à ces femmes malades qui ont du mal, après une chimiothérapie, à se retrouver, à retrouver leur féminité. Cécile a veillé, en développant sa marque, à choisir des matières européennes et miser sur une production au Maghreb. J'espère que cet épisode vous plaira. Belle écoute à tous! Bonjour Cécile.
Bonjour Jeanne.
Donc vous êtes la fondatrice de Garance, une marque de lingerie qui est destinée aux femmes atteintes ou ayant été atteintes d'un cancer du sein.
C'est ça.
Donc on va revenir sur cette marque. Est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter ?
Alors donc je m'appelle Cécile, j'ai 48 ans, très bientôt 49. Je suis mariée, j'ai 3 filles et j'ai fondé donc la marque Garance. Je l'ai fondée parce que dans mon parcours, en fait, j'ai travaillé pendant 17 ans dans les services financiers, après une école de commerce. Et je suis tombée malade à 39 ans, donc il y a 10 ans, j'ai eu un cancer du sein. Et j'ai découvert un monde que j'imaginais pas. Et j'ai été traitée... à l'Institut Gustave Roussy. Comme j'étais jeune, j'ai eu un traitement assez lourd, des chirurgies. Et dans mon parcours, j'ai découvert qu'après des chirurgies du sein, on était pris en charge par le monde médical et qu'on était obligé de changer sa lingerie, pour faire simple, et que cet achat lingerie était complètement décorrélé du plaisir puisqu'il se faisait uniquement en milieu médical. Donc l'histoire de Garance, elle est née comme ça.
Donc c'était un choc, non seulement il y a la maladie, mais même une fois qu'on est guéri, qu'on en est sorti, il faut se rendre dans ces boutiques spécialisées pour s'acheter de la lingerie qui, j'imagine, n'est pas très sexy, pas très colorée.
Alors, ce qui était proposé à l'époque, oui, c'est vraiment un marché qui est préempté par des marques plutôt médicales, même si elles essayent d'aller vers des choses plus fines. Leur base, elle est quand même médicale. Leur réseau de distribution est médical, de toute façon. Donc oui, ce qu'on trouve clairement, c'est que vous arrivez, on est quand même sous le choc, on vous explique, moi j'ai eu une ablation du sein, donc on m'a expliqué, voilà, vous allez avoir une prothèse externe, on m'a montré la prothèse, et c'est à ce moment-là que j'ai dit, mais je comprends pas, ça rentre pas dans mon soutien-gorge. Et on m'a dit, mais non, il faut acheter des soutiens-gorge adaptés maintenant. Donc on est extrêmement bien préparé pendant ce début de maladie par les équipes médicales qui expliquent vraiment comment ça va se passer. C'est vrai que ce côté-là, en revanche, on ne vous l'explique pas parce que ça reste... On peut se dire comme ça que c'est un petit peu anodin et un peu futile. Mais donc, on se retrouve dans une pharmacie, une orthopédie, on vous dit, non, il faut acheter de la lingerie adaptée. Alors déjà, ce sont deux mots qui ne vont pas très bien ensemble, quelque part. Et donc, je leur dis, d'accord, mais qu'est-ce qui existe ? Alors, avec un peu de chance, il y a du stock, donc on peut vous montrer des choses qui, en effet, sont un peu loin quand même, on ne va pas se mentir, Bah, de ce que moi j'avais l'habitude de mettre. Et puis après, souvent, c'est ah, bah, j'ai pas votre taille, donc je vais vous le commander. Qu'on se retrouve à commander sur catalogue et à revenir, on va dire, quelques jours après le chercher, l'essayer. Moi, je suis tombée dans un endroit où il n'y avait pas de miroir pour se regarder, où on était dans la pièce. Comment dire, la réserve des médicaments, donc la personne tenait la porte. Enfin, c'est vraiment une expérience qui m'a vraiment maltraitée. Enfin, et donc, j'ai vraiment eu envie à partir de là. En fait, je l'ai d'abord mis dans un petit peu de côté. Je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça, un peu résolu. Donc, il faut prendre ce qu'on te donne. C'est pas important. Le plus important, c'est quand même déjà de passer les traitements et de sauver ta peau. Et puis, j'ai passé le premier été où je me suis aussi retrouvée en maillot de bain. Et là, rebelote. Il faut trouver un maillot de bain qui est adapté. Ce qu'on me propose ne me plaît pas. C'est des couleurs chamarrées, des espèces de perroquets. Voilà. Moi, j'avais l'habitude d'avoir des petits modèles noirs ultra basiques. Et donc, je me retrouve au bord d'une piscine et l'histoire, elle commence encore plus là, c'est-à-dire que je suis dans le sud de la France, au bord d'une piscine où j'ai pu déporter mon traitement. Et je vois une femme qui sort de la piscine, dans un très joli bikini et qui a des cheveux très longs. Moi, à l'époque, à ce moment-là, j'ai perdu mes cheveux et qui essore ses cheveux. Vous savez, ce mouvement où on penche la tête sur le côté et puis tout doucement, les mains descendent et on essore les cheveux. Et je la regarde et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que moi... Je me regarde et je me dis, mais là, c'est vraiment pas juste. Tant la lingerie, je pouvais la cacher, autant le maillot. Voilà, j'ai passé l'été à emmener ma famille dans tous les magasins possibles et imaginables pour essayer de trouver quelque chose. J'ai pas trouvé. Et je suis rentrée. Et là, j'en étais à peu près à la moitié des chimios. Et je me suis dit, ah, il y a un truc à faire, je dois pas être toute seule. Et ça aussi était un projet qui m'a porté ça. Je me suis dit, je vais me mettre en... je vais commencer à interroger les gens, je vais essayer de comprendre est-ce que moi je suis la seule à avoir un sale caractère et à pas accepter ce genre de choses qu'on m'impose, ou bien est-ce qu'on est plusieurs à penser ça. Et puis ça a démarré comme ça, on était en septembre 2010 pendant un an et demi, le reste des traitements, en fait, j'ai découvert ce métier que je connaissais pas. C'est quoi une styliste, c'est quoi une modéliste, c'est quoi la différence, comment est-ce qu'on monte un maillot de bain, comment est-ce qu'on décline une lingerie, quelles sont les matières, où est-ce qu'on les trouve. Et au bout d'un an et demi, j'avais mes premiers prototypes, un site vitrine, et en fait j'ai déposé les statuts de garance en janvier 2012. Voilà, d'accord. Donc un peu moins d'un an et demi après.
Donc ça a été assez vite.
Ça a été assez rapide. Alors après, on peut imaginer que j'avais arrêté de travailler, hein, donc j'avais aussi du temps, pris évidemment par les traitements, mais ce sont des traitements où on descend très 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 bas, mais on remonte aussi. Et c'est au moment où on remonte que moi j'ai débordé d'énergie et j'avais ça qui m'occupait la tête. Bon, plus évidemment la famille à gérer, etc. Mais en fait, ça a été... aussi, je pense, un espèce de projet qui m'a porté et qui m'a donné un peu une vision haute que la maladie. Parce que j'aime beaucoup travailler, j'ai toujours beaucoup travaillé, j'ai toujours été très active. Donc se retrouver d'un seul coup à la maison sans travailler, on est désociabilisé, on n'a rien à raconter quand on vous dit « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» En ce moment, je suis arrêtée, j'ai un cancer. Alors, c'est pas très glam. Deux, ça fait peur. Et là, j'avais plein d'autres choses à raconter aussi. C'était ça qui était intéressant.
Oui, ça vous a permis aussi de tenir et de positiver.
Oui, et de me remettre dans une position autre que celle du malade. Mmh. C'est-à-dire que je reprenais une position de quelqu'un qui travaille. Je me levais le matin, j'avais des objectifs à atteindre. Je me disais, il faut que tu trouves des fournisseurs d'élastiques. J'allais à la chambre de commerce, je regardais le compas. Vraiment en mode, je n'étais pas que malade en fait. Déjà, encore une fois, physiquement, ça se voyait. Moi je le ressentais, c'est-à-dire que j'étais quand même très fatiguée, donc là ça me permettait d'être autre chose que simplement Cécile qui est malade et qui a un cancer et qui est en train d'être traitée en fait.
Et pendant tout ce parcours de malade et ce traitement du cancer, est-ce que la féminité elle est un peu reléguée au second plan?
Ah ben, L'histoire de Garance, c'est vraiment une histoire de féminité. C'est-à-dire, quand je vois cette femme qui sort de la piscine et que je me regarde, moi, je suis tout sauf féminine. Alors, j'ai plus de cheveux, donc on peut imaginer que j'ai un foulard sur la tête. Est-ce que j'ai un foulard qui a sorti à mon maillot de bain? Bah, pas vraiment. Voilà. J'ai plus de cils, j'ai plus de sourcils, donc je les maquille. J'apprends à les maquiller comme je peux. Mais je me regarde dans le miroir et sincèrement, à ce moment-là, moi, j'ai du mal à me reconnaître. Donc, c'est tous ces... Et c'est là que je l'associe à la féminité, c'est-à-dire que ce qui me représentait, évidemment, encore une fois, physiquement, parce que... Et c'est pour ça que ce projet, il m'a autant porté, parce qu'intellectuellement, je suis toujours la même, mais physiquement, je me regarde et je ne suis plus la même. Alors, il y a plein d'artifices qui font que... en plus, moi, j'y ai attaché quand même pas mal d'importance, donc je me regarde... Je suis jeune, il faut imaginer que je vais chercher mes enfants à l'école. Donc, elles-mêmes, elles me disent qu'elles aimeraient bien que je mette une perruque ou elles ont des mots qui ne sont pas méchants, mais qui sont assez, assez durs, en fait, assez cruels hein, quand on traverse ça. Donc oui, la féminité, elle en prend vraiment un coup parce que même si on a beau dire on n'est pas une poitrine, on n'est pas des cheveux, une fois que vous n'avez plus de cheveux, vous n'avez plus de poitrine, oui, je suis toujours féminine. Mais quand même, extérieurement,
ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup de choses à gérer en très peu de temps. C'est-à-dire que peut-être que sur un très long terme, et c'est le cas, on s'accepte, mais quand du jour au lendemain, en fait, parce que ça va très très vite, hein, entre le moment de l'annonce, le moment de l'intervention et le début des chimiothérapies. Quand on démarre les chimiothérapies, sur le cancer du sein, parce que ce n'est pas le cas sur tous les cancers, mais le protocole le plus classique, vous perdez vos cheveux au bout de 15 jours. Donc c'est extrêmement rapide en fait. Hein.
Ouais, et donc vous avez senti quelque chose dans votre poitrine et 2 mois après c'était vous étiez déjà en chimio ou...
J'ai senti quelque chose en février. Je suis pas du tout hypochondriaque donc je suis plutôt du style à jamais emmener mes enfants chez le médecin et moi non plus. Et là c'est mon mari qui m'a dit quand même c'est bizarre, va quand même consulter. Aucun cancer dans la famille. Pour être très honnête, je ne savais pas ce que c'était un cancer. Donc même la notion de je sens quelque chose. En fait, je ne l'associais pas à une tumeur. C'est-à-dire que je vais paraître très, très naïve, hein, mais pour moi, je me demande, je n'avais jamais réfléchi à qu'est-ce qu'un cancer. Et donc, ça aurait pu être quelque chose de contagieux. Ça aurait pu être des symptômes comme de la fièvre. Enfin, vraiment, j'étais très, très loin de savoir ce que ça représentait. Mais après, il y a heureusement toutes ces campagnes de dépistage qui font qu'il y a une espèce de tilt. Et moi, je les remercie, ces campagnes, parce que je pense que sans comprendre ce qui se passait, j'ai eu un déclic. C'est vrai que mon mari m'a dit à l'époque, va quand même consulter. Et je suis allée voir le gynéco qui m'a dit, non, c'est rien. Mais si tu es inquiète, va passer une écho, une mammo, ça fera une première image et ça sera intéressant. Et j'ai été passer une première écho, une mammo, et je suis tombée sur quelqu'un de vraiment super et qui m'a dit... Moi, j'aimerais bien que vous fassiez une biopsie, qui a fait une biopsie, donc je suis revenue. Donc, il faut imaginer qu'il y a une semaine à 15 jours entre chaque, où on m'a toujours dit « ça ne sera rien ». Et même après la biopsie, on m'a dit « il y a quelque chose, mais ça va être traité très vite, vous aurez une petite intervention, on va juste vous enlever la tumeur. Et peut-être, si vous n'avez pas de chance, vous aurez des rayons. » Et en fait, bon, ça n'a pas du tout été cette histoire-là. Donc, c'est ce qui explique aussi la difficulté à accepter de façon aussi rapide derrière. C'est-à-dire que... dans mon cas...
Vous n'étiez pas du tout projetée là-dedans.
Ah ben non, parce que dans mon cas, vraiment, je m'étais... on n'en avait même parlé à personne. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on allait embêter les gens, finalement, si c'était un petit truc? Donc on n'en a pas parlé aux enfants, on n'en a parlé à personne. Et en fait, quand on a eu les résultats de la biopsie, on devait être... alors, moi, je fais partie de ces femmes qui n'ont aucune mémoire des dates... je suis assez impressionnée par celles qui sont capables de dire tel jour. Pas impressionnée, mais c'est juste, à chaque fois, je me dis, tiens, on a quand même une façon de gérer les choses très différentes les unes des autres. Voilà. Moi, je ne sais plus quel jour j'ai été opérée, je ne sais plus quel jour. Je me souviens que c'était...
Avant l'été ?
Oui, j'ai dû avoir les premiers résultats en mars, j'ai dû attendre un mois pour être prise en charge, et j'ai dû être opérée pendant les ponts de mai. Voilà. Et les chimios ont démarré fin juin. Donc il y a quand même du temps, mais c'est pas comme une grossesse où on grossit tout doucement et on voit même pas qu'on grossit à la limite et puis un matin on se dit tiens c'est marrant je rentre plus dans mon jean. Enfin c'est du jour au lendemain c'est comme si vous vous retrouvez avec, c'est comme les dénis de grossesse, enfin, c'est, d'un seul coup on vous enlève un sein et puis 15 jours après vous perdez vos cheveux quoi.
Ouais.
Voilà. Puis en plus c'est pas très... c'est pas dans le bon sens, quoi.
C'est-à-dire non, que forcément.
Ce ne sont pas des bonnes nouvelles.
Et est-ce que vous êtes tombée sur un réseau de femmes pour s'entraider? Est-ce que, par exemple, je pense à Rose, est-ce que ça existait déjà à cette époque? Parce que c'était en 2010. Ouais. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus de sensibilisation maintenant.
Alors, en 2010, sincèrement, les réseaux sociaux, fait imaginer qu'Instagram, il n'y avait quasiment rien. Faudrait refaire l'historique d'Instagram, mais je sais pas où on en était à l'époque. Facebook, c'était moi, j'étais pas du tout Facebook, donc
oui, c'était le début. Enfin, c'était.
Je pense que c'était le début. Oui, oui. Enfin, franchement, c'était pas du tout aussi actif qu'aujourd'hui. Rose Magazine n'existait pas parce qu'on s'est rencontrés après. Moi, j'ai été pris Rose de l'entrepreneuse, le premier. Donc, on est né en même temps. On a été malade globalement en même temps avec Céline Nisraoux. Donc, on se connaissait pas physiquement, mais on a été traité la même année. Donc, il y avait vraiment pas tout ça. Non, il y avait très très peu d'infos, si ce n'est les dames qu'on rencontrait pendant les traitements, mais moi j'étais toujours la plus jeune. Il y avait quelques espaces dans les hôpitaux où vous pouvez aller chercher de l'information, mais sont quand même. Moi j'ai été traitée à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, c'est un centre anti-cancer, il n'y a que des cancéreux. Alors moi je l'ai très bien vécu, c'est un institut qui est super, c'est un énorme bateau, mais en fait à l'intérieur en fait il y a des petits navires, donc vous êtes vraiment pris très bien pris en charge, mais enfin franchement il faut se débrouiller, et je pense qu'à l'époque d'ailleurs souvent je me suis dit mais heureusement que je suis quand même jeune, que je manipule internet etc. pour aller chercher des adresses pour les cheveux, des adresses pour la prothèse. Alors, je suis allée voir les socio-esthéticiennes de l'hôpital. J'ai vraiment actionné tout ce qu'on me proposait. Mais c'était très physique. En fait, ce n'était que du réseau physique. Tout ce qui était Internet à l'époque, franchement, c'était très, très peu développé. Et d'ailleurs, moi, je suis surprise aujourd'hui de voir à quel point... Il y a une communauté qui existe, elles ont toutes du coup entre 10 et 15 ans de moins que moi et je les connais très bien parce que du coup, enfin, elles incarnent la marque, enfin, moi je suis en lien tout le temps avec elles, mais, et elles en tirent une force qui m'a pas manqué parce qu'elle n'existait pas, c'est pas comme si elle existait mais on m'autorisait pas à y rentrer, mais c'est vrai qu'on sent une force entre elles et un partage fort. À la fois aussi, parfois, c'est dur parce que quand il y en a une qui part, c'est toute la communauté qui est quand même ébranlée. Et malheureusement, surtout depuis le début de l'année, c'est une année compliquée, difficile, je trouve, pour cette communauté qui est bien ébranlée. Mais donc il y a du positif, il y a du moins bien. Et moi, je ne l'avais pas à l'époque, donc j'ai fait sans.
Mais dans votre marque, vous avez quand même choisi de mettre à l'honneur ces femmes, qu'elles soient toujours malades, guéries, en rémission, puisque vos mannequins sont que des femmes qui ont été atteintes ou sont toujours en combat contre le cancer du sein. Et je tiens à le préciser, il y a zéro retouche sur vos photos.
Oui.
Est-ce que ça a été difficile de les convaincre? Comment vous avez fait? Qui vous êtes allé voir en premier une fois que vous aviez vos prototypes, vos modèles et qu'il a fallu choisir des mannequins?
Alors les toutes premières photos, elles n'ont pas été faites sur des femmes opérées. Justement parce que c'était... donc on est en 2012, il n'y a toujours pas les réseaux sociaux. Donc j'ai fait les premières photos sur une vraie mannequin. Et c'est à partir de... je ne retrouve plus les dates, peut-être 2014-2015. Donc pendant 2-3 ans, je ne l'ai pas fait. Et puis après, une fois que j'ai pu avoir des premières clientes, tisser des premiers liens... j'ai participé aussi avec l'Institut Curie à des groupes de travail sur les outils à mettre en place pour accompagner les femmes après une mastectomie. Donc je suis rentrée dans un réseau comme ça qui m'a permis de rencontrer d'autres femmes que moi. Et en fait, c'est elles qui ont été les premières à poser quand j'ai pu enfin en avoir quelques-unes. Et puis au fur et à mesure, aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup plus facile parce que... parce qu'il y a les réseaux sociaux, que Garance y est présente. Donc, il suffit presque de poster et de dire on organise un shooting, qui aimerait participer pour avoir quand même suffisamment de retours pour ensuite, en fonction des plannings de chacune, arriver toujours à trouver des gens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vois plus faire autrement. C'est-à-dire que, en fait, je travaillais déjà avec elle pour essayer les modèles. Donc, depuis le début, on fait essayer sur des femmes opérées qui ont une prothèse. Donc, on les fait sauter dans tous les sens. On les fait vérifier que ça tient, etc. Et du coup, c'était dans la logique de les faire poser. Mais il fallait aussi qu'elles aient confiance. Il fallait que les premières photos, en fait, montrent qu'il y a beaucoup de respect, qu'on n'est pas dans le voyeurisme. Parce que quand on parle photo de lingerie, on peut tout avoir. Hein. Nous, on fait tout à la lumière naturelle. Donc, vous imaginez, c'est compliqué. C'est-à-dire que l'hiver, quand on veut faire des photos de lingerie dans Paris, par exemple, dans un appartement, il faut avoir le bon appartement. Mais... C'était la suite logique. Et je pense qu'une fois qu'elles ont vu que les photos étaient vraiment dans la bienveillance, dans le respect, qu'on essaye... Alors là, maintenant, l'étape suivante, c'est vraiment d'aller chercher toutes les morphologies, tous les âges. Là, on a un shooting la semaine prochaine où on a enfin... parce que c'est vrai que ça a été long, une femme de couleur. Ça faisait longtemps que je voulais une femme de couleur, donc j'ai travaillé avec une association qui s'appelle Projet Amazon, qui est super aussi, qui regroupe des femmes des îles, plutôt, enfin, pour faire simple, hein, j'espère que ça peut se dire comme ça, mais, et elle m'a aidée à trouver une femme donc, qui puisse... Parce que c'est elle-même qui me disait aussi, mais on n'est pas représentée, en fait. Après, vous allez avoir la même chose sur les femmes... je voulais aussi des femmes un peu rondes. C'est vrai que les premières photos, on a eu plutôt des femmes assez toniques, assez fines. Donc, il fallait aller faire des femmes un peu plus rondes, des femmes un peu plus âgées aussi, parce que c'est une maladie qui, mine de rien, touche quand même. Même s'il y a de plus en plus de jeunes et qu'elles s'exposent, elles se montrent sur les réseaux, c'est quand même une maladie où vous allez à Gustave aussi, vous allez à Curie. Il y a beaucoup de femmes qui ont plus de 60 ans. Hein, faut pas... Donc, de plus en plus, on va vers ça. Et puis... moi, ça me fait aussi, quand je vois en ce moment tout ce mouvement autour du body positive, au début, je me disais, c'est super, parce que nous, on est vraiment dedans. La baseline de Garance, c'est mon corps a changé, et alors c'est vrai que je trouve que la lingerie, c'est un peu approprié ça. Je vois de plus en plus de campagnes avec, alors du moment qu'on a une rousse, une métisse, youhou, ça y est, on est dans l'inclusion. Moi, ça me chagrine toujours un peu, et à la fois, j'ai l'impression que... moi, je suis fière parce que je trouve qu'on le fait vraiment. C'est-à-dire qu'on prend une femme, elle a un sein en moins, elle a été reconstruite, elle est éventuellement en traitement, etc. Mais ça, pour moi, c'est vraiment de l'inclusion. Et surtout, je les fais sourire, ou en tout cas, je ne leur demande pas d'être la mannequin comme je vois trop. Enfin, c'est un peu mélancolique, etc. Pour moi, Garance, elle incarne aussi cette réappropriation du corps, cette réappropriation de la féminité. Et on est, dans quelque chose qui est très positif. Donc c'est vrai que sur nos photos, généralement, mais elles-mêmes, elles viennent et c'est un moment de libération. C'est une bulle positive dans tout ce qui arrive. Donc elles sont vraiment dans le positif et c'est tout ça qu'elles viennent incarner. Et heureusement qu'elles sont là, parce que moi, je poserai jamais. Moi, ça, je pense que je suis trop pudique pour me mettre en lingerie et en maillot de bain, alors qu'on me l'a plusieurs fois dit, on m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous incarnez pas votre marque ?
Je vous ai cherché sur le site, mais non.
Non. Je me poste parfois, mais plus sur les réseaux, mais parce qu'on ne voit pas non plus beaucoup. Je suis pas...
Vous êtes assez discrète.
Oui, alors j'essaye quand même de montrer qui je suis parce que je pense que les gens aiment bien. Mais Garance, c'est pas que moi. Enfin voilà, c'est avant tout toutes ces autres femmes. Je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait aussi pour elles. Parce que à la limite, c'est vraiment souvent j'ai dit, j'aimerais que les femmes qui passent après moi, elles aient pas à vivre ce que j'ai vécu. Donc à la limite, moi c'est passé. Enfin cette frustration, cette colère, qui est pas nécessaire. On n'a pas besoin de ça en plus. C'était ça l'idée, c'est qu'elles elles aient ce poids en moins
à subir, oui. Et à porter. Et lorsque vous aviez vos modèles pour les réseaux de distribution, vous êtes allé vers le médical, est-ce que c'était possible pour vous, étant, je sais pas, j'y connais rien, mais comme vous venez pas d'un milieu médical, que peut-être vous avez pas forcément travaillé avec des médecins pour élaborer vos modèles, est-ce que ça a été possible ou les portes se sont refermées?
Alors ça a été déjà, dès le départ, étant donné que le réseau, cette lingerie et ces maillots de bain n'étaient distribués que dans le réseau médical, j'ai pris le parti d'aller les voir. Et je me suis dit, si j'arrive à être référencée chez eux, c'est que mon modèle, techniquement, il tient la route. Voilà. Donc, la première année en 2012, en fait, j'ai vraiment pris mon bâton de pèlerin et j'ai appelé des distributeurs. Et en 3 mois, j'en ai eu une quarantaine qui ont référencé la marque. Et le principe, comme je ne pouvais pas me déplacer, parce qu'en plus, j'arrivais au moment de mon traitement, au moment de la phase, moi j'ai fait une reconstruction chirurgicale, donc au moment de la reconstruction. Donc j'ai été arrêtée, en fait j'avais des chirurgies tous les 3 mois, donc je ne pouvais pas me déplacer. Donc je l'ai fait de chez moi, par téléphone, j'ai fait de la prospection téléphonique, et je leur disais, écoutez, moi, regardez le site internet, donc ils allaient voir le site, et je les rappelais, et je leur disais, si ça vous intéresse, lesquelles vous plaisent, je vous les envoie. Si ça ne vous plaît pas, vous me les retournez. Et si ça vous plaît, vous les gardez une semaine, vous les faites essayer. Et si vous pensez que vous avez potentiellement la possibilité de les vendre, vous les gardez et j'ai eu aucun retour. Mmh. Voilà. Et on arrive à juin 2012. Et j'ai vendu tout mon petit stock que j'avais fait. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Pour vous dire à quel point, enfin, je vis vraiment les choses en fait au fur et à mesure. Je me dis, tiens, il faudrait faire ça. Et puis une fois que j'ai atteint le truc, et on est au mois de juin, juillet, et Rose Magazine propose, enfin, et c'est le prix. Et je me dis, bah tiens, je vais répondre. J'envoie un dossier. Et en fait, Céline Lys m'appelle au mois de septembre. Elle me dit, bah, vous avez gagné. C'est vous à l'unanimité. Vous recevrez votre prix en octobre. Et en fait, le prix m'a énormément aidée puisqu'il m'a permis derrière, justement, puisque elle faisait tout un travail vers le grand public aussi. Elles avaient des beaux partenaires. En fait, j'ai pu contacter notamment des grands magasins, les Galeries Lafayette, qui m'ont dit, on adore ce que vous faites. Et si vous avez déjà 40 distributeurs médicaux, c'est que votre produit, en fait, il tient la route. Et donc, j'ai pu, derrière, ouvrir aussi sur des réseaux de distribution plus grand public. Même si c'est compliqué, parce qu'à l'époque, on est en 2012-2013, ça reste un sujet qui est tabou, donc on y est, mais il ne faut pas trop en parler, etc. J'espérais beaucoup, en fait, avoir l'ouverture de ce monde du retail, qui est très intéressé, mais ça reste un marché de niche, donc du coup, il regarde aussi les ventes, etc. Donc moi, il a fallu que je trouve encore une autre voie de distribution. Et c'est comme ça que j'ai ouvert le site internet. Donc on est en 2013-2014 pour multiplier encore et encore toujours les réseaux de distribution. Quoi.
Parce que lorsqu'on est une femme en soins, on nous donne un carnet d'adresses avec les points de vente où on peut retrouver de la lingerie adaptée ou pas du tout ?
Alors, au niveau des hôpitaux, non, puisqu'ils n'ont pas le droit de faire de la publicité, ce qui est un peu... ce qui est compliqué, je trouve, ce qui est un peu une hérésie, parce qu'on a besoin d'informations. En fait, c'est clair que c'est de la publicité, puisqu'on donne le nom d'un revendeur, le nom d'une marque. Mais d'un autre côté, moi, je vois beaucoup de femmes qui arrivent à la boutique, puisque maintenant, en plus, on a une boutique dans Paris, et qui me disent, mais en fait, on ne m'a pas donné d'informations, quoi. Donc, parce qu'ils ne veulent pas faire de la pub, en fait, ils ne donnent pas beaucoup de choses. Mais bon, du coup, parfois, les femmes ont un peu de mal à nous trouver. Heureusement qu'il y a Internet maintenant. Heureusement qu'il y a Internet. Donc, elles ne partent pas forcément. Elles partent souvent avec beaucoup de conseils. Ça, c'est sûr. On nous remet beaucoup de conseils. Après, à nous de trouver celui qui va être, en fait, l'acteur qui va transformer ce conseil en quelque chose de vrai. Ça peut être, il faut utiliser des produits sans des huiles lavantes, par exemple, parce que votre peau va être très, très asséchée. Bon, bah, après, il faut aller en parapharmacie, regarder ce qui existe, essayer de tomber sur quelqu'un qui va bien vous conseiller, etc.
Oui, donc il y a tout un travail à faire par soi-même derrière.
Oui, vraiment. Moi, j'ai vu une femme à la boutique cette semaine qui m'a dit qu'il y avait eu un premier cancer il y a peut-être 12 ans, qu'il y a eu une récidive là. Et en fait, elle avait une prothèse, elle avait une ablation, elle avait une prothèse qui, franchement, n'était pas très adaptée. Et elle m'a dit, mais en fait, on ne m'a rien donné. Donc, j'ai été au premier endroit que j'ai pu trouver. Et elle est repartie avec... alors, c'est quand même 99,9% des cas, mais elle est repartie avec un sourire et reboostée, parce qu'elle m'a dit, mais c'est un joli lieu, vous avez pris le temps, et c'est ça qui me plaît, quoi. C'est-à-dire que vous avez pris le temps de m'écouter, de m'expliquer ce à quoi j'ai le droit, ce à quoi j'ai pas le droit,
Donc vous êtes détaché du milieu un peu austère et froid des hôpitaux, des cliniques.
Ah oui, enfin, ouais. C'était vraiment l'idée. Enfin, l'idée de Garance au départ, hein, c'était un, d'avoir de la jolie lingerie fine qui essaye de s'éloigner du look médical. Donc il y a des contraintes, pas d'armature, pas de baleine, des décolletés souvent assez couvrants, parce qu'on a un côté plein, des poches pour glisser une prothèse et réussir à faire tenir cette prothèse sans armature et sans baleine. Donc techniquement, c'est assez complexe. Mais une fois qu'on a compris ça, c'est mettre des jolies matières, des matières douces, des dentelles qui ne grattent pas. En plus, enfin... Moi, je choisis que des matières qui sont de proximité, donc dans la zone Europe, des fournisseurs de confection qui sont pas trop loin pour éviter aussi de plomber un peu l'empreinte carbone de mes produits. C'est une première chose. Et la seconde chose, c'était que je voulais que cet achat, ça redevienne un achat plaisir. Donc, il fallait absolument passer par, oui, le milieu médical, parce qu'il est important, et il est incontournable, mais c'est pour ça que je voulais aller vers le retail, c'est pour ça que le site internet est important. Et puis, il y a 3 ans, on a ouvert une boutique dans Paris, qui permet aussi, parce qu'on nous disait, oui, mais on voudrait essayer, parce qu'internet, c'est compliqué, et puis, vous n'êtes pas partout, etc. Et ça, c'est impressionnant. J'ai des femmes qui viennent de très loin, alors même de France déjà, de province, donc qui montent. La plus impressionnante, ça a été une femme qui m'a envoyé un texto à 6h du matin en me disant « Je viens d'atterrir de Hong Kong. Je suis là pour des contrôles 4 jours. Est-ce que je peux passer à votre boutique? À quelle heure vous ouvrez ?» Et qui a acheté maillot de bain et lingerie. Et qui est repartie avec, parce qu'elle me disait, bah, moi, en fait, je ne trouve pas forcément là-bas. Donc elles peuvent venir de très, très loin. Donc, cette boutique, elle permet vraiment de... Alors, pour elles, de trouver tout dans un... C'est vraiment... On a essayé de monter un joli cocon, évidemment, où elles sont bien prises en charge et bien accueillies. Et puis, pour moi, c'est super parce que je les rencontre, je leur parle, j'ai un retour sur les produits immédiats. Là où avant, j'avais parfois du mal à trouver des femmes pour essayer les modèles, maintenant, c'est beaucoup plus facile.
Ah bah oui. Et vous avez finalement créé une sorte de communauté autour de votre marque, de femmes qui peuvent discuter entre elles. J'ai regardé un petit peu votre page Instagram et vos réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on voit que ces femmes malades ou anciennes malades échangent entre elles, se donnent des conseils. Enfin, c'est fantastique.
Alors, elles ont d'autres lieux, hein, Internet aussi, où le faire, mais c'est vrai que Garance, c'est un lieu où elles se reconnaissent, elles sentent, je pense, aussi la bienveillance. Certaines n'ont pas forcément saisi mon parcours parce que même si on le met en avant, c'est vrai que c'est encore une fois, il y a Garance et il y a Cécile, donc c'est quelque chose moi auquel je tiens, c'est-à-dire que c'est elles qui sont au centre, c'est pas moi. Donc parfois elles n'ont pas forcément compris qui j'étais et le parcours. Alors c'est un peu la cerise sur le gâteau, tant mieux. C'est vrai que elles viennent chercher du conseil, de l'échange, elles comprennent que je comprends. Il y en a qui n'ont pas envie d'en parler, donc moi j'en parle pas dans ces cas-là. C'est vraiment à la carte en fait.
Et au niveau des spécificités de la lingerie, donc vous avez mentionné pas de baleine, pas d'armature. Je sais que lorsqu'on a eu un cancer, il faut faire très attention au soleil et aux rayons UV. Donc pour vos maillots de bain, est-ce que vous avez dû vous diriger vers une matière spécifique?
Alors c'est une matière anti-UV forcément que j'ai pris. C'est une matière italienne, un lycra italien anti-UV, et puis après il résiste au chlore, au sel, etc. Mais oui, ça c'était aussi important c'est bien beau de mettre un décolleté un peu montant pour couvrir une absence de sein ou une cicatrice, parce que c'est vrai que même après une reconstruction, on peut avoir des cicatrices qui montent assez haut au niveau des aisselles quand on a eu un curage axillaire aussi, ça peut être intéressant ça. Mais si la maille elle est pas anti-UV, c'est un peu moins bien. Voilà, donc oui, forcément, toutes nos mailles, elles sont anti-UV.
Pour vos matières, vous vous êtes dirigée vers des salons, vous connaissiez déjà ce milieu? Pas du tout.
Alors, je connaissais pas du tout ce milieu. Non, mais vraiment, je n'en ai pas du tout de ce secteur-là. J'ai fait le salon, il y a le salon de la lingerie, le salon interfilière, hein, qui se réunit deux fois par an. J'ai utilisé aussi les compétences de styliste avec qui j'ai pu travailler, voilà, de modéliste qui m'amenaient leur carnet d'adresses, des usines aussi avec lesquelles je travaille, qui ont aussi leur carnet d'adresses. Voilà, et puis petit à petit, on se crée après son propre réseau. Et puis maintenant, Garance, elle est connue aussi sur le salon de la lingerie. Donc quand j'y vais, ça me permet d'assez vite identifier maintenant les fournisseurs qui peuvent être intéressés aussi pour travailler avec moi, parce que ça les intéresse. Ça interpelle, hein, c'est un sujet sur la lingerie. Très peu de marques qui y vont, en fait. Hein. Il y a même pas de marques classiques qui y vont. Donc forcément, ça interpelle les fournisseurs.
Votre choix, ça a toujours été d'avoir une production assez locale, donc Europe, pas nécessairement en France. Mais...
Alors, en France, malheureusement, je peux vraiment pas. Les coûts de production sont très élevés. Alors, moi, je produis au Maghreb, en Tunisie pour le moment et au Maroc.
Oui, donc assez local.
Oui, c'est local. C'est pas l'Europe. C'était juste pour préciser que c'était pas l'Europe.
Mais les matières viennent d'Europe.
C'est ça, oui, parce que en revanche, toutes les matières. Oui. Bon, beaucoup d'Italie, un peu de Lituanie, de la France. Voilà, pas mal, tout ce que je peux, je le fais en France. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour.
Le cancer du sein, ça reste une maladie quand même malheureusement trop présente chez la femme. Je regardais un petit peu les statistiques. Ils disaient qu'en 2017, il y avait plus de 60 000 femmes qui ont été atteintes et touchées par cette maladie. Est-ce que... J'ai deux questions pour finir l'épisode, mais la première, c'est... Est-ce que vous pensez, comme c'est un cancer dont on peut guérir et dont on sait que certaines femmes guérissent, est-ce qu'on a tendance à le minimiser et minimiser les effets qu'il peut avoir sur la femme, sur son moral, sur sa féminité, parce qu'il y a cette possibilité d'en guérir?
Alors, oui et non, parce que je pense qu'il y a eu une période où on a oublié cet après-cancer. Et peut-être, moi, quand je suis tombée malade, on était peut-être encore dans cette période-là. Et puis, depuis, dans les plans cancer, en fait, l'après est devenu de plus en plus important. Parce qu'on est de plus en plus nombreuses, heureusement, à être réceptives aux traitements qui ont été identifiés jusqu'à maintenant. Et on retourne à la vie active, on doit reprendre une vie professionnelle qui est un vrai sujet à traiter. C'est-à-dire toutes ces femmes même des maladies chroniques, mais si là on parle du cancer du sein, mais toutes ces femmes qui reviennent dans la vie professionnelle avec un bagage qui est différent. Des séquelles aussi, il ne faut pas se mentir, physiquement. Moi, 10 ans après, je vais encore chez le kiné tous les 15 jours. Parce que j'ai des douleurs, parce que j'ai des adhérences, hein, voilà, pour le dire joliment, mais il y a un impact sur la vie après qui est important, mais qui du coup, je trouve, est quand même de plus en plus pris en compte. On parle de plus en plus du sport après la rémission, on peut même avoir des séances de sport prises en charge, voilà, donc... Je pense que c'est un sujet qui est, somme toute, quand même... On est sur la bonne voie. Voilà.
Et pour toutes les auditrices et les auditeurs aussi, parce qu'on peut rappeler à sa copine ou sa conjointe de se palper les seins, de faire ce qu'elle peut pour éventuellement détecter quoi que ce soit, une tumeur ou même au moindre doute. Est-ce que ça, vous pensez qu'on sensibilise assez les jeunes? Les jeunes filles, vous qui avez 3 filles.
Je pense qu'on les sensibilise jamais assez. Il y a un super mouvement que nous, on essaye de relayer régulièrement sur les réseaux sociaux de Garance. C'est un mouvement qui s'appelle Feel It on the First, qui est de se palper, de penser le premier du mois à se palper. Alors, la palpation, ce n'est pas forcément pour identifier une tumeur, c'est pour apprendre à connaître ses seins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense à les palper une fois par mois, alors le premier du mois, voilà, il y a cette espèce de phrase qui est assez pratique parce qu'on y pense, plus on se palpe le sein, et là-dessus, il y a plein de tutos, et vraiment j'encourage les femmes à aller voir parce qu'avec la voix, c'est plus compliqué à expliquer. Mais et l'idée, c'est à la fin de les connaître et de pouvoir identifier si un jour, il y a quelque chose qui change. Est-ce qu'il y a une... Parce que c'est pas forcément une tumeur que vous allez sentir. C'est pas forcément une boule, ça peut être une résistance à un endroit, ça peut être un épaississement. Vous voyez, ce serait trop simple en fait si c'était. Et puis à la limite, c'est presque. Trop tard. Enfin, ouais. Ça veut dire qu'elle est déjà là
c'est mieux de pouvoir identifier autre chose.
Voilà, ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais. Donc, plus en fait, cette idée de se palper, encore une fois, c'est pas aller pas chercher une tumeur. Voilà. Donc déjà, faut arrêter d'avoir peur. On cherche pas une tumeur, on cherche à se connaître. Donc, si plus vous touchez en fait vos seins avec certains mouvements, et c'est bien de faire toujours les mêmes parce que du coup, on va toucher au même endroit, etc. Et à un moment. Si on sent quelque chose qui est différent, et c'est là que ça doit alerter. Voilà. C'est pas, je cherche pas un cancer. Non, je cherche juste à connaître mon corps et à voir s'il y a des choses qui bougent dedans, être capable, moi, d'alerter, parce que quand on est jeune, on n'a pas d'écho et de mammo, les contrôles, normalement, c'est à partir de 50 ans, le dépistage organisé. Moi, j'ai été touchée à 39 ans. Oui, j'ai même pas eu cette vigilance parce que je ne faisais pas ce mouvement. En fait, il se trouve que c'est vraiment un hasard. Souvent, on entend, c'est dans la douche aussi, quand je me savonnais sous les aisselles ou on entend ce genre de choses. Tant mieux, moi, j'ai eu de la chance. Ça a été un mouvement qui a fait que je l'ai senti. Toutes les campagnes autour de l'autopalpation, c'est pour éviter que ce soit juste un hasard. C'est vraiment ça. Et oui, j'encourage. Moi, j'ai trois filles et du coup, elles sont suivies puisque elles commencent déjà à être suivies. Mais évidemment, je les sensibilise à ça et j'essaye de leur montrer. Alors, faut pas dramatiser. Encore une fois, on cherche pas un cancer, mais on cherche à se connaître, essayer de leur montrer les mouvements à faire. Et si elles le font pas tous les mois, c'est pas grave. Mais c'est une espèce d'habitude qu'il faut commencer. Faut y penser. Et puis si on oublie un mois, deux mois, trois mois, c'est pas grave. Mais on y revient surtout. On se dit pas, c'est pas grave. C'est trop tard, voilà, si je laisse tomber, non.
Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je pense qu'on a fait, le tour des questions. Comme d'habitude, de toute façon, j'indiquerai dans la description de l'épisode le lien, évidemment, vers votre site, votre compte Instagram, mais également vers Rose, est un magazine super. Qu'on peut lire, que tout le monde devrait lire, qui est vraiment passionnant. Et puis vers les campagnes et peut-être des tutos de palpation, etc. Je ferai tout ça dans la description.
Ok, super.
Merci beaucoup, à très
merci.
Bientôt.
Merci, Jeanne.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Cancer et environnement sont pour moi deux problématiques liées. C'est pourquoi je tenais à recevoir et interviewer Cécile. J'espère que nous aurons l'occasion d'aborder d'autres sujets comme celui-ci. Comme toujours, n'hésitez pas à partager l'épisode avec vos proches, vos amis ou vos collègues. Toutes les informations utiles seront indiquées dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Merci à vous d'être toujours plus nombreux et à la semaine prochaine !